Vincent, monsieur le directeur, eh ben écoutez, la parole est à vous. Je vais le faire pendant quelques chroniques, hein,
Merci,
mais
merci petit scarabée.
la parole est à vous.
Alors,
Écoute.
ben, je ne sais pas si tu as révisé, petit scarabée,
Un petit peu.
mais si tu te souviens bien, lors de la dernière chronique, on avait exploré une démarche qui cherchait à maîtriser entièrement la fabrication de son image et qui aboutissait à un certain formalisme de la perfection et de l'image unique.
Ouais, on avait parlé, enfin, tu avais parlé d'Ansel Adams, de sa chambre photographique et du spotmètre.
Exactement, je vois que tu as effectivement révisé, c'est bien. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer une démarche totalement opposée, qui passe par l'acceptation du hasard, du bon vouloir de l'appareil photo, et sur la versatilité du petit format, à travers la figure de Gary Winogrand. On verra aussi à travers son exemple, on touchera une interrogation en fait que se posent souvent les photographes lorsqu'ils ont l'impression de faire trop de photos. Ils peuvent toujours se dire qu'ils en feront jamais autant que Gary, qui avait un rythme de croisière d'une vingtaine de films par jour, hein, grosso modo. Ça dépendait peut-être le dimanche, il en faisait moins, mais je suis pas sûr. Pour mesurer un peu l'ampleur de sa production, lorsqu'il meurt en 1984, hein, très jeune, à 56 ans, on retrouve dans son appartement environ 2500 bobines de films exposés, mais pas encore développés, donc ce genre de petites choses-là. Et plus de 4000 bobines développées, mais dont il n'avait pas encore fait la planche contact.
Ouais. On va voir d'ailleurs apparaître à l'image une planche contact. Et donc les planches contact permettent d'avoir une vision globale de toute une séquence de prise de vue.
C'est ça, et c'est vraiment passionnant de les voir en fait sur ce genre de photographe, parce que par exemple ici, c'est lors d'une soirée dans un club new-yorkais en 55, alors que Winogrand est encore en pleine découverte du potentiel de la photographie. On le voit, il fait beaucoup d'images relativement identiques. Il explore la gestuelle des couples hein, principalement, et la plupart des images sont relativement quelconques pour du Winogrand. Mais une véritable déflagration a lieu à la vue 25. Alors, si on peut voilà, la mettre un peu plus grand, une explosion de joie certainement hein, dans la scène qui se transforme en explosion de violence dans l'image. En tout cas, c'est ce que j'y vois et c'est ce genre de transfiguration de la réalité propre à l'instantané photographique qui va totalement fasciner Winogrand.
Ouais. Moi, je trouve cette image absolument fascinante. Effectivement, la main au premier plan, moi, me fait penser à comme des griffes. La dentition, en tout cas la bouche ouverte, semble prête à mordre. Du coup, je comprends ce que tu veux dire quand tu parles de transfiguration du réel. Cette image, cette instantanée, ne retranscrit pas forcément le réel. Il va le transformer et l'enrichir.
Il le transforme, l'enrichit, oui, c'est une sorte de réalité augmentée en fait, hein,
Ouais.
créée par la photographie. Sur cette autre image hein, qui va arriver, qui est intéressante aussi parce que c'est l'une de ses plus célèbres en fait, et c'est pourtant une œuvre encore un peu de jeunesse. Hein, elle date de la fin des années 50. Il a une trentaine d'années. Il est à l'aube de la décennie vraiment des années 60, hein, durant laquelle son œuvre va se construire. Et cette photo, à mon sens, elle annonce à la fois ses obsessions et son style. On est sur Park Avenue, au cœur de Manhattan, qui va devenir son terrain de jeu quasi quotidien pendant 10 ans. Il y a la présence du couple, qui va constituer pour lui un sujet inépuisable. Il y a le singe au milieu, hein, l'animal qu'il va très souvent photographier, et qui deviendra même le sujet de son premier livre en 69, consacré aux zoos de Central Park. Et il y a l'inattendu, l'instantané, le cadrage penché aussi, un peu bancal, qui fera sa signature. Et on est au beau milieu de la rue, ce qui est aussi significatif puisque Winogrand deviendra l'une des figures centrales dans l'histoire de la street photographie.
Mais à cette époque, là, on est à la fin des années 50 et au début des années 60, Winogrand est surtout connu pour être un photographe de presse.
Ouais. Et il sait faire des belles images, hein, simples, bien lisibles, très souvent au téléobjectif, hein, comme c'est le cas sur cette vue. Le téléobjectif, hein, qui a cette vertu de sélectionner, de cibler, en un mot, de simplifier le cadre. Hein. Ça crée des images qui sont très percutantes, hein, comme c'est le cas ici, et qui attirera facilement l'œil dans un magazine. Mais bon, il s'ennuie un peu. Il sent que la réalité, elle est plus complexe, et surtout que la photographie serait capable de révéler cette complexité, si seulement on la laissait faire.
Ouais. Et à la fin des années 50, il y a un petit événement, sort ce livre dont on voit la couverture, Les Américains, de Robert Frank, qui va changer pas mal de choses quand même.
Il va changer énormément de choses, ouais, et notamment dans la démarche de Winogrand. Hein, ça va vraiment l'encourager à se libérer. En fait, Les Américains, c'est vraiment un événement qui va dynamiter les canons photographiques, dans la mesure où Robert Frank, il fusionne les voies documentaires et expérimentales. Hein, les deux sont réunis dans une puissance visuelle radicalement nouvelle et sauvage. Robert Frank, à ce moment-là, il a 4 ans de plus que Winogrand, et il montre aussi à cette nouvelle génération qu'on peut être à la fois un photographe, je dirais, à tendance reporter, hein, qui s'intéresse au monde réel, et un artiste, ce qui n'est pas forcément une évidence à l'époque.
Oui, on peut avoir les deux, vraiment faire de la photo qui documente le réel et qui soit également une photo artistique.
Artistique, ouais, et en même temps plus complexe dans son contenu. Hein. Dans cette idée, Winogrand, à cette époque, adopte de plus en plus les courtes focales, comme on le voit ici, notamment le 28 mm, qui correspond à son angle de vision. Lui appelle ça son angle d'attention. Et cet angle de champ très large lui permet vraiment d'enregistrer la richesse des interactions dans la foule urbaine de New York. Il se déclare avide des découvertes, des miracles que peut lui offrir son appareil photo, en bon adepte de la sérendipité. Ce terme qui désigne le hasard fructueux, hein, à la fois en art et en science, hein, d'ailleurs. Et cette passion pour les surprises photographiques va totalement le dévorer. Il n'arrête littéralement jamais de photographier. Pour lui, l'art de la photographie réside plus dans l'acte de la prise de vue que dans le tirage final. En vrai, il n'est pas particulièrement intéressé à réaliser des chefs-d'œuvre. Hein. Il s'en moque un peu même des tirages. Souvent, lui suffit, il le dit lui-même, la sélection des photos sur la planche contact, hein, ce qu'on appelle la phase d'editing. Et ce qu'il passionne vraiment, c'est l'acte photographique. Être dans la rue, laisser l'appareil capter les événements, découvrir comment l'appareil voit, ce qu'il résumera par des maximes, alors que j'adore, hein, sa plus célèbre, par exemple, c'est « Je photographie pour découvrir à quoi ressemblent les choses une fois photographiées ». C'est magnifique, je trouve. Elle dira aussi « Je photographie pour sortir de moi-même et pour m'éduquer ».
Ouais. En fait, il a une démarche assez à l'opposé de celle d'Ansel Adams. Là, c'est davantage une démarche de recherche photographique que de finalité, l'acte photographique en gros plus que la photo imprimée.
Exactement. En fait, il appartient à une famille de photographes comme Robert Frank, hein, qui se sentent plus proches de la littérature que de la peinture. Son style sec, tranchant, il est essentiellement photographique. Et sa référence, c'est pas l'histoire de la peinture, la culture du tableau en tant qu'image oratique. Sa culture, c'est l'instantané photographique. Et d'ailleurs, malgré sa production phénoménale, il publiera que 4 livres de son vivant et fera assez peu d'expositions, à l'exception quand même notable, hein, de la légendaire New Documents au MoMA de New York en 67, en compagnie des non moins légendaires Lee Friedlander et Diane Arbus.
Ouais. Et on va voir une image à photographier dans la rue. Comme ça, on se dit que parfois, on peut tomber sinon sur des fâcheux, mais en tout cas sur des personnes avec lesquelles ça se passe pas forcément hyper, hyper bien.
Ça peut arriver. Mais là, alors, il a un avantage, hein. C'est que c'est un peu le Mohamed Ali de la photo. c'est à la fois une armoire à glace, qu'on n'embête pas trop, et quelqu'un de très rapide, de très agile. Et surtout, il a une confiance absolue dans sa démarche et se considère mais totalement légitime à prendre les gens en photo dans la rue, quoi. Et c'est là qu'on arrive sur la question des choix techniques. Parce que, justement, dans la rue, il veut pouvoir photographier de façon très furtive. Et comme on l'a vu, il cherche à retranscrire le chaos, le hasard, des micro-événements. Et c'est plus un artiste de l'inachevé, de l'essai et de l'instant qui se méfie de la forme parfaite, hein, même et définitive de l'image. Donc, il lui faut un appareil qui puisse allier la mobilité et la rapidité, et dont la finalité serait pas tant la qualité technique en tant que telle, mais plus la possibilité de prendre énormément d'images. Et ce sera le Leica M, petit format, que je pense beaucoup de monde connaît ce soir, hein. Ça reste un appareil de légende pour de bonnes et de mauvaises raisons, hein, aussi d'ailleurs, parce qu'il est connoté à un certain élitisme.
Oui, C'est un peu la Rolex des appareils photos.
C'est ça, si tu n'as pas ton Leica à 40 ans.
Ouais. Si tu n'as pas ton Leica avant 40 ans ou avant 50 ans, c'est que tu as arrêté ta vie. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi et pourquoi cet appareil, justement, est devenu légendaire?
Bah, son histoire, en fait, elle est liée à celle du film petit format, donc celui que je vous montrais tout à l'heure, et qui lui-même est lié à l'apparition du cinéma à la fin du 19e siècle, et qui utilise alors ce film 35 mm. On trouve dès 1914 hein, des appareils photo plutôt grand public utilisant ce type de film, alors qu'il est considéré à cette époque comme trop petit pour un usage photographique de qualité. Le premier Leica utilisant le film 35 mm, il sort en 1923, après une dizaine d'années de travail hein, de la part d'Oscar Barnack, qui est alors ingénieur pour Leitz en Allemagne, et qui est rentré dans l'histoire de la photographie comme quelqu'un d'important. Le premier, donc, c'est le Leica série 0, et il est d'ailleurs une belle foirade hein, en réalité, parce que même les ingénieurs de Leica, à l'époque, le trouvent trop compliqué. À titre d'exemple, le temps de pose sur le barillet, hein, par exemple, qu'on peut trouver sur des appareils comme ça, là, les temps de pose sont pas indiqués par un temps de pose, mais par la distance qui sépare les deux volets de l'obturateur.
Ouais.
Quelque chose de très très simple, quoi.
Ouais, ça aurait été trop simple, mais comme quoi, on peut quand même se relever d'une belle foirade, comme tu disais, parce que l'histoire a continué.
Ouais, tout à fait. Et bon, alors pour la faire courte, hein, le concept est peu à peu amélioré. Et c'est à cette époque que Henri Cartier-Bresson, donc que vous voyez à l'image, qui se destinait à devenir peintre, il commence à s'intéresser à la photographie et il commence à trouver très rigolo ce petit appareil en fait, parce qu'il lui permet d'être beaucoup plus immergé dans l'action, dans la foule, dans le mouvement. Et Cartier-Bresson va développer toute une approche photographique basée sur la notion d'instant décisif, dans laquelle s'inscrit Winogrand, et qui repose techniquement sur l'utilisation du Leica et du petit format. Et Cartier-Bresson, avec son aura, va rallier beaucoup de photographes à cette manière d'aborder la photographie.
Non, et du coup, beaucoup de marques vont adopter ce format, et le film 35 mm va devenir un standard qu'on connaît.
Voilà, tout à fait. Hein. Le film 35 mm va devenir le standard film 135 tout court, et ça en 1935. Donc, ça va se faire tenir. Et c'est sous cette forme que le grand public connaîtra la photographie durant quasiment tout le XXe siècle. La fameuse Péloche, hein, avec son format image le plus courant, qui était de 24-36 mm, et qui reste d'ailleurs aujourd'hui encore considéré comme la taille idéale pour les capteurs des appareils numériques. Alors, Winogrand, quand il commence à faire des photos hein, pour les magazines dans les années 50, c'est l'époque du Leica M3. Il était déjà hors de prix, mais il était devenu un outil un peu incontournable des reporters, à la fois compact, silencieux, rapide, précis, en plus d'avoir un chargement simple, en tout cas pour l'époque. Ensuite, le Leica M4, qui sort en 67, va devenir l'appareil favori de Winogrand pour toute la décennie suivante, durant laquelle il va surtout photographier Los Angeles. Alors, tu me permets un petit peu de caméra porn à cette heure-ci.
Oh bah, puisque t'es lancé, vas-y.
Merci, merci. Alors, sur cette photo, ce serait un de ses exemplaires perso des années 70, à l'époque où il adopte cette combinaison, somme toute assez simple, hein, mais aujourd'hui considérée comme un classique absolu de la photo de rue. Leica M4, objectif 28 mm et pellicule noir et blanc Kodak Tri-X.
Ouais. Là, tu nous parles de matériel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi derrière une esthétique qui est liée au petit format.
Oui. Je sais que tu restes de marbre face aux caméras porn.
Voilà.
Mais c'est important de voir la compacité de cet appareil, en fait, dont le but est de devenir comme un prolongement de la main et de l'œil, hein, selon la mythologie Leica, mais qui était pertinent hein, dans le cas de Cartier-Bresson, et l'est peut-être encore plus pour Winogrand. Quand on l'observe travailler dans les films qu'on peut consulter, hein, on voit que le Leica lui permet de se glisser dans le flux urbain et de faire en sorte que son œuvre elle-même épouse ce flux urbain par la profusion d'images, notamment, hein, qu'il va produire. Et ce qui est passionnant chez lui, c'est cette rencontre d'une curiosité hallucinante à la fois pour les autres et pour la photographie. Il dira aussi « When I'm photographing, I don't see pictures, I see faces.
Ouais. » Quand je photographie, je vois des visages, pas des images, en gros.
En gros, ouais, merci
Ouais.
Google Trad.
Oh, comme tu vas.
Effectivement, ce qui l'intéresse, c'est à la fois les visages et ce que l'appareil photo va lui apprendre sur ces personnes et ces visages. Et si on suit cette démarche, l'appareil photo serait capable de révéler en fait des vérités cachées, ce que l'un des premiers penseurs de la photographie, Walter Benjamin, nommé dans les années 30, à l'époque de la naissance du Leica, l'inconscient optique. C'est-à-dire des détails du visible que peut capter la caméra, mais qui échappent au regard. Et pour espérer capter ça, il faut maîtriser un minimum la technique, hein, bien sûr, mais elle n'est pas très compliquée, en fait, avec les appareils petit format comme le Leica. Il faut surtout savoir faire confiance à l'appareil photo et rester ouvert aux accidents et aux surprises qu'il peut produire. En un mot, il faudrait savoir, à mon sens, hein, accueillir cette fameuse sérendipité qu'on évoquait tout à l'heure, accepter de faire des centaines de milliers d'images pour que peut-être, de temps en temps, avec un peu de chance et beaucoup de travail, le miracle survienne, quoi. C'est ce que cherchait Winogrand, hein, jusqu'à l'épuisement, de créer, à l'aide du Leica en l'occurrence, une photographie qui nous apprenne à voir.